Bonjour, je m'appelle Géraldine Naja et je suis directrice de la commercialisation de l'industrie et des contrats à l'Agence spatiale européenne.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiante?
Alors, mon parcours d'étudiante, tout d'abord, j'ai fait des études scientifiques, donc j'ai fait des classes préparatoires scientifiques après le bac. Et puis j'ai été reçue à Polytechnique, j'ai fait Polytechnique. Et après Polytechnique, j'ai fait ce qu'on appelle une école d'application qui est l'ENSTA, pour une spécialisation justement plutôt en génie chimique et plus spécialement propulsion fusée. Et j'ai aussi fait Sciences Po, parce que j'ai toujours aimé l'histoire et j'étais particulièrement intéressée par l'histoire contemporaine et la construction européenne. Et donc, j'ai eu la chance, après mes études, de faire un travail qui regroupait un peu ces deux aspects, donc l'espace, qui était évidemment ma passion, mais aussi la construction européenne et de rentrer à l'Agence spatiale européenne.
Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Alors, justement, après mes études, en fait, d'abord, j'avais un pré-contrat avec l'ONERA, qui est un organisme de recherche, le grand organisme de recherche aérospatiale en France, et où j'avais fait mes stages de fin d'études. Et en fait, je devais travailler dans la recherche, et plus particulièrement la recherche sur la combustion dans les moteurs fusées. Et en fait, à ce moment-là, à la fin de mes études et où j'allais rentrer à l'ONERA, ça a été dans le monde spatial européen le démarrage de grands programmes, Ariane 5, Columbus, la participation de l'Europe à la station spatiale, et le programme Hermès, qui est un programme de petites navettes spatiales. Et donc l'Agence spatiale européenne recrutait à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que, autant j'étais passionnée d'espace et d'ailleurs de lanceur aussi, et je le suis toujours. Autant j'étais pas vraiment faite pour la recherche, qui est, je crois, un exercice assez solitaire et qui aussi se déroulait dans un cadre purement national. Et moi, ça me plaisait de pouvoir voir un cadre plus large et particulièrement le cadre européen. Donc, j'ai postulé à l'Agence spatiale européenne et j'ai démarré comme ingénieure sur le programme de station spatiale, la contribution de l'Europe à la station spatiale Columbus. Et là, je m'occupais d'opérations de charge utile et du design des systèmes automatiques et robotiques pour les opérations des charges utiles sur Columbus. Alors à l'époque, la station spatiale européenne, c'était du papier. Et c'est vraiment très amusant de voir un projet qui passe du premier papier, je dirais pas des premières esquisses, mais en tout cas, disons, d'un état de document à progressivement quelque chose qui devient du concret. Et puis finalement, on voit le lancement de ce projet. Mais quand Columbus a été lancé au début du XXIe siècle, déjà, je ne travaillais plus sur ce projet. Alors après avoir été ingénieur sur Columbus, j'ai travaillé à ce moment-là à l'Agence spatiale européenne, il y a eu la mise en place d'un groupe stratégie. Donc j'ai participé à ce groupe stratégie. Et j'ai eu la responsabilité en particulier des études de prospective, donc de la préparation du futur à très long terme. Et ça, c'est aussi un sujet qui n'a jamais cessé de m'intéresser, parce que l'espace, c'est encore un des rares domaines où on regarde à très très long terme. Un projet, ça peut durer 10 ans, 15 ans. On regarde là, par exemple, je vais vous donner même un exemple, quand on réfléchit actuellement en 2022 aux missions scientifiques du futur, on regarde des missions qui se déroulent à un horizon 2050 et plus, vers, par exemple, les lunes glacées des grandes planètes géantes du système solaire ou des choses comme ça. Donc, j'ai toujours trouvé passionnant qu'on puisse réfléchir à long terme, avec une vision vraiment lointaine. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en particulier, j'avais la responsabilité d'un comité de prospective avec des représentants de chaque État membre de l'Agence spatiale européenne et on avait fait un rapport justement sur l'espace en 2050. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'ai repris ce rapport il y a 2 ans à peu près, Je me suis rendu compte que, bon, bien sûr, il y avait des choses qu'on avait loupées, mais il y avait pas mal de choses où on avait vu assez juste. Et j'avais trouvé ça très intéressant.
C'est un exercice complexe quand même, à la
Oui.
fois super intéressant, motivant, mais très très complexe. Enfin, moi, je parle en tant que personne là aujourd'hui en 2022 où tout bouge très très rapidement on a du mal justement à se projeter, quoi.
On a toujours beaucoup de mal à se projeter. Et puis, de toute façon, il faut être très humble quand on fait de la prospective. C'est-à-dire que on voit des tendances, mais certainement dans ce qu'on identifie, au mieux, il y en aura une ou deux qui prendront. Puis le reste, on aura complètement loupé des choses fondamentales. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, Internet était assez balbutiement et on n'avait pas du tout anticiper le côté, disons, la digitalisation du spatial et à quel point, par exemple, les satellites allaient essentiellement plus tard servir à distribuer de l'Internet à haut débit. Ça, on n'avait évidemment pas pu prévoir ça. Et alors, donc voilà, après cet exercice de prospective, j'ai fait plusieurs postes encore à l'ESA sur après un sujet d'ailleurs qui est encore d'actualité. J'avais la responsabilité de la mise en place d'études et de systèmes sur l'espace au service des catastrophes, enfin, disons, comment éviter, comment anticiper et gérer les catastrophes naturelles grâce aux moyens spatiaux. Bon, ça c'est devenu ensuite un grand sujet, mais au départ, c'était une petite étude, d'ailleurs conjointe avec le CNES, l'Agence spatiale française, et on avait mis en place une charte espace et catastrophes naturelles. Après, j'ai passé un an au cabinet de Claudie Aigneret, quand elle était ministre du spatial, et enfin plutôt ministre, pas seulement du spatial, loin s'en faut, elle était ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc de 2003 à 2004, j'ai passé un an à son cabinet. C'était très intéressant de voir comment fonctionne un ministère et comment les décisions sont prises au plus haut niveau. C'était une expérience extrêmement enrichissante, mais je ne m'occupais pas d'espace dans son cabinet, je m'occupais justement de prospective et de stratégie. Et puis après, quand je suis revenue à l'ESA, donc en fait début 2005, là, j'ai pris la responsabilité des relations avec l'Union européenne. Et là aussi, c'était quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que jusqu'à, disons, jusqu'au tout début des années 2000, l'Union européenne et la Commission européenne en particulier s'intéressaient assez peu au spatial, ou alors seulement comme potentiel utilisateur sur certains systèmes. Mais très rapidement, en fait, l'Union européenne s'est rendue compte que l'espace est un outil formidable pour la plus grande partie de ses politiques, en particulier pour l'environnement, mais aussi pour les communications, disons, la recherche, le développement, l'agriculture, enfin. Et donc, l'Union européenne avait besoin de l'outil spatial pour ses politiques. Et donc, on a mis en place un système de partenariat avec l'Union européenne, qui ensuite a conduit aux deux programmes phares que sont Galileo, le GPS européen, comme le dit souvent, et Copernicus, qui est un grand système de surveillance de l'environnement par satellite. Et j'ai fait ce travail donc de 2005 à 2013, 8 années très intéressantes, avec beaucoup de, disons, beaucoup de, encore une fois, de démarrage de nouveaux projets et de choses à mettre en place, je crois, qui est toujours ce qui m'intéresse le plus. Dans la vie, de démarrer des nouvelles choses et surtout de les voir se développer. Parce que démarrer, c'est facile, mais le plus compliqué, c'est de les mener à bien. Et puis, après, j'ai eu un an, comme j'avais fait effectivement pendant 8 ans des relations institutionnelles avec l'Union, j'ai eu un an où on m'a demandé d'assister le directeur des lanceurs de l'ESA à mettre en place le cadre institutionnel pour le démarrage d'Ariane 6. Donc les relations avec le CNES, l'Agence spatiale française, et avec l'industrie, puisque Ariane 6 était prévu et s'est développé comme un projet vraiment où on est en partenariat avec l'industrie. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez Marianne Claire, qui est
Oui.
très chère, et c'est que j'ai connue dans ce cadre-là, et ça a été très très bien de travailler avec elle, et j'ai beaucoup apprécié l'interview qu'elle a fait. Et puis après, je suis passée à une chose complètement différente. Après le démarrage d'Ariane 6, donc à la fin de 2014, En début 2015, j'ai postulé pour devenir chef de département sur la politique industrielle à l'ESA, qui est un département important parce qu'il est vraiment assez central à l'Agence spatiale européenne. Donc, j'ai fait ce poste de chef de département pendant 6 ans. Et puis maintenant, depuis un an, donc depuis 2021, j'ai pris en charge une nouvelle direction à l'ESA qui regroupe deux fonctions très traditionnelles à l'ESA qui sont justement la politique industrielle et les relations avec l'industrie et puis les contrats. Et puis, une nouvelle fonction qui est la commercialisation, qui est un peu la grande nouveauté de l'année. Et là aussi, quelque chose qu'on démarre, qu'on doit mettre en place et qui est l'évolution de l'ESA vers une approche un peu plus new space, donc la prise en compte du contexte qui a tellement évolué dans le spatial et comment est-ce qu'on répond à cette évolution. Voilà ce parcours. Et je crois qu'en fait, si je le résume, c'est vraiment bon, l'espace, qui est la grande passion de ma vie, mais aussi l'Europe et la coopération internationale, qui est très, très important. Ce cadre européen, c'est essentiel. Et puis, le démarrage de nouveaux projets, de nouvelles façons de travailler, de nouveaux partenariats. Voilà.
Très riche. Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial?
Alors oui, bah déjà, je dirais que toute ma carrière est dans le spatial. Donc, forcément, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le spatial et surtout à l'Agence spatiale européenne. Clairement, la rencontre qui m'a le plus orientée vers le spatial, c'est Jean-Jacques Dordain, qui a été mon professeur à l'École polytechnique et qu'ensuite j'ai retrouvé à l'Agence spatiale européenne, et puisque même il a été pendant 12 ans directeur général de l'Agence spatiale européenne. Et comme je l'ai eu comme professeur à Polytechnique, il était en mécanique des fluides, qui n'était pas forcément la matière qui m'intéressait le plus, mais lui, il la rendait passionnante parce qu'au lieu de nous faire des équations et de nous faire des exercices qui consistaient à résoudre des équations, il nous montrait en quoi ces équations étaient utiles. Et par exemple, il nous faisait calculer la rentrée dans l'atmosphère de la capsule Apollo ou les ondes de choc lors de la combustion. Enfin, c'était toujours des exemples concrets et liés au spatial. Et évidemment, comme par ailleurs, c'était aussi le moment des premiers lancements du lanceur Ariane en France et en Europe, ça a été certainement ce qui a été déterminant pour moi pour aller travailler dans le spatial. Mais après, je dirais tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de faire des rencontres incroyables. J'ai cité Marianne Clerc, qui est certainement une rencontre très forte pour moi. Je pourrais citer aussi, je crois que vous l'avez interviewé aussi, Jean-Yves Le Gall, que j'ai rencontré alors que je venais de rentrer à l'ESA. Il a fait une carrière extrêmement prestigieuse et merveilleuse, mais on ne s'est jamais perdu de vue. Et ça a été aussi une rencontre importante pour moi. Et puis, je pourrais vous en citer d'autres. À la Commission européenne, j'ai eu la chance de travailler avec Herbert Thalgayer, Paul Weissenberg, des gens qui ont vraiment insufflé l'intérêt du spatial au sein de la Commission européenne. Et ça aussi, c'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et d'estime.
C'est très précieux, effectivement. Alors, pouvez-vous nous présenter l'ESA en rappelant les aspects historiques de l'agence tout en tenant compte du contexte de la concurrence internationale avec les nouveaux lanceurs et les nouvelles agences spatiales émergentes, et notamment, entre guillemets, hein, on a bien entendu l'apparition et le développement dans le contexte européen des start-up.
Alors, l'ESA, donc, c'est. Alors, ça, là aussi, ça me désole toujours de devoir dire ça parce que souvent, les gens ne connaissent pas l'ESA et je leur dis, je suis dans la NASA de l'Europe. C'est un peu Galileo, le GPS de l'Europe. L'ESA, c'est la NASA de l'Europe. J'espère qu'un jour, on dira, mais oui, la NASA, c'est l'ESA des États-Unis, mais on n'en est pas là. Mais ça viendra peut-être. Et oui, on est l'Agence spatiale de l'Europe. Alors, ça veut dire quoi? On a à l'heure actuelle 22 États membres, plus 4 États associés, un État coopérant. Enfin, en gros, on a à peu près les mêmes États membres ou associés que ceux de l'Union européenne, Et en plus, on a la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse qui ne sont pas partie de l'Union européenne, ne font pas partie de l'Union européenne. Et avec ces États, donc on est une agence intergouvernementale, c'est-à-dire que ce sont les États qui décident, nous, nous exécutons les décisions des États, mais évidemment, nous préparons ces décisions, nous proposons à nos États des programmes spatiaux, et les États décident de les démarrer ou pas, et les financent, et décident du niveau de leur financement. Alors, pour vous donner quelques chiffres, l'ESA, c'est à peu près un peu plus de 5000 personnes qui travaillent sur 8 grands sites en Europe. On a le siège à Paris, le grand centre technique aux Pays-Bas, centre d'opération en Allemagne et aussi l'entraînement des astronautes en Allemagne, centre de l'observation de la Terre en Italie, centre spatial, sciences spatiales en Espagne, télécom et applications au Royaume-Uni, enfin, et encore j'en oublie d'autres. On a vraiment des sites un peu partout en Europe, sans oublier évidemment ce site commun en quelque sorte avec le CNES, qui est la base de lancement CSG, que vous connaissez bien maintenant. Et donc, nous avons un certain nombre d'activités et de programmes. Alors, un budget d'environ, à l'heure actuelle, un peu plus de 7 milliards d'euros par an. Et l'Agence spatiale européenne, c'est une organisation assez flexible. Elle a une petite partie de ses activités qui est obligatoire, c'est-à-dire que les États sont tenus d'y participer, avec un niveau de financement fixé à l'avance qui dépend de leur PNB. Et le programme dit obligatoire de l'ESA, c'est tout ce qui est programme scientifique et technologique, développement technologique. Puis, la grande partie des activités de l'ESA, plus de 80% des activités de l'ESA, sont des activités facultatives, c'est-à-dire que, ou optionnelles, si vous voulez, les pays peuvent choisir ou pas d'y participer et, quand ils souhaitent y participer, ils choisissent le montant de leur participation en fonction de leurs ambitions et de leur industrie et de leurs compétences particulières. Donc, par exemple, les lanceurs, ce sont des programmes facultatifs. Les pays choisissent, bon, par exemple, la France, qui est un pays extrêmement actif et remarquable dans les lanceurs, a une participation élevée dans le domaine des lanceurs. Nous avons les programmes d'exploration. Là, ce sera peut-être plutôt l'Allemagne ou l'Italie, qui mettra beaucoup d'argent dans l'exploration, les applications, chacun a ses… Donc, si vous voulez, c'est un système très flexible qui fait que les pays peuvent vraiment, j'allais dire, avoir un programme sur mesure en fonction de l'intérêt de leur industrie. Et puis, il y a la fameuse règle dite du retour géographique, qui est très motivante, puisque les pays contribuent, disons, à un certain pourcentage sur un certain programme. Et la règle à l'ESA, c'est qu'ils doivent recevoir un pourcentage équivalent des contrats qui vont être placés sur ce programme. Ce qui signifie que les pays investissent à l'ESA, mais ils récupèrent leur investissement sous forme de contrats dans leur industrie. Donc, c'est très, très motivant pour ces pays, pour tous nos pays, parce qu'ils savent très bien des activités de haute technologie, des emplois très qualifiés, etc.
Pour la dynamique économique de leur propre pays, en fait, sur leur industrie.
Ah oui, Ah oui, énorme. Et on fait le calcul de ces retombées. On a des retombées qui… C'est un effet multiplicateur de plus de 3. Donc, pour chaque euro investi, les pays récupèrent au moins 3 euros en termes de retombées scientifiques, techniques, économiques, emplois, etc. Et puis, il y a un autre aspect qui est important de signaler à l'ESA, c'est que on est, je crois, la seule agence spatiale au monde à être active dans tous les domaines de l'activité spatiale. Si je compare la NASA, par exemple, la NASA n'est pas active dans les applications. Ce n'est pas la NASA qui fait le GPS ou l'observation de la Terre. Alors que nous, nous faisons tout, la science, la technologie, les lanceurs, l'exploration, la station spatiale, toutes les applications, encore une fois, observation, navigation, télécom. Donc, on est vraiment dans toutes les activités liées au spatial. Et ça fait une agence spatiale vraiment très riche et très intéressante. Alors, vous m'avez demandé ensuite le nouveau contexte et la concurrence internationale et les agences, les pays émergents dans le spatial. Alors, effectivement, quand j'ai commencé à travailler à l'ESA à la fin des années 80, il y avait essentiellement, soyons clairs, deux puissances spatiales qui étaient les États-Unis et ce qui allait devenir la Russie, mais qui était encore pour quelques mois l'URSS. Et en fait, on voit bien maintenant que même si on a toujours deux grandes puissances spatiales, que sont les États-Unis et la Russie, on a évidemment la Chine, qui est devenue très clairement une des puissances leaders, sinon la puissance leader avec les États-Unis dans le domaine spatial. Bon, l'Europe a énormément développé ses activités, mais aussi le Japon, mais aussi l'Inde. Et disons, quand j'ai commencé à travailler dans le spatial, je pense qu'il y avait moins de 10 pays réellement actifs dans le spatial. Il y en a maintenant 80. Donc, ça vous donne une idée à quel point les activités spatiales se sont démocratisées. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de merveilleux auquel j'ai pu assister. C'est que l'espace, qui était un domaine réservé aux grandes puissances et aux grands industriels et aux gros budgets, parce que c'était un domaine cher, ça coûtait cher d'aller dans l'espace, ça coûtait cher de faire des satellites, il n'y avait que des grands industriels qui travaillaient là-dessus et des grands pays. Maintenant, la barrière d'accès à l'espace, elle a considérablement baissé. Et maintenant, si vous êtes étudiant, vous pouvez développer votre petit satellite, le faire lancer par un tout petit lanceur pas cher. Si vous êtes un pays, pas un grand pays, mais un pays avec des moyens limités, vous pouvez néanmoins avoir vos systèmes spatiaux pour assurer la sécurité ou pour les télécoms ou pour le développement. Et ça, c'est merveilleux parce que l'espace, c'est vraiment ouvert à tous, à tous les pays, mais aussi à tous les types d'usages. Et un dernier point, c'est que, évidemment, les 15 dernières années, on a assisté à un phénomène lié d'ailleurs à cette ouverture du spatial, qui est l'irruption du financement privé, des acteurs privés dans le spatial. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, clairement, l'espace était un domaine quasiment purement public. Il y avait le marché des télécoms, mais c'était très limité. Maintenant, la commercialisation est une réalité quasiment dans tous les secteurs de l'activité spatiale, y compris, par exemple, l'exploration ou l'utilisation de l'orbite basse.
Alors, en quoi consiste votre métier de directrice de la commercialisation, de l'industrialisation et de l'approvisionnement de l'ESA?
Alors, effectivement, donc, comme je crois que je le disais, en fait, ce métier, cette fonction, regroupe trois éléments. Il y a deux éléments qui sont très historiques, traditionnels à l'ESA, qui sont l'industrie, les relations avec l'industrie, et la politique industrielle, et puis les contrats ou approvisionnement. Évidemment, pourquoi les contrats et la politique industrielle? C'est très simple, c'est que les États nous donnent de l'argent et nous transformons le financement qu'ils nous donnent en satellites, lanceurs, stations spatiales, missions scientifiques. Et comment nous faisons ça? En passant des contrats à des industriels qui vont développer ces éléments, ces matériaux pour nous. Donc, notre métier, c'est essentiellement de passer des contrats et de, évidemment, gérer ces contrats avec l'industrie en partenariat de plus en plus. On a de plus en plus de contrats en coopération, en partenariat, voire en cofinancement avec l'industrie. Donc, le rôle du département des contrats est très important à l'ESA. La politique industrielle, j'en ai touché un mot, c'est que, par exemple, nous devons veiller à l'équilibre entre les pays dans la passation des contrats et garder un certain équilibre qui est relatif à la portion de financement du pays et la portion de contrat qu'il reçoit. Mais pas que. Nous avons aussi à veiller à ce qu'il y ait une compétition. Donc, tous nos programmes font l'objet d'une compétition entre industriels. Donc, nous évaluons les résultats de la compétition, nous sélectionnons les consortiums industriels pour avoir les meilleurs, les plus compétitifs, tout en veillant à un certain équilibre géographique. Toujours un peu délicat. Et puis, à côté donc de ces deux fonctions très classiques et très centrales à l'ESA, qui sont effectivement les contrats et l'industrie, la politique industrielle, il y a une troisième fonction qui est très nouvelle, c'est la commercialisation. Donc, comme je vous disais, c'est la prise en compte de ce contexte nouveau, du new space, des startups, du fait que maintenant, l'investissement privé commence à atteindre des niveaux dans le spatial qui rejoint celui de l'investissement public, et que ça induit une nouvelle façon de travailler, une nouvelle approche dans la gestion des projets. Et ben, la prise en compte de cela, c'est ce que nous faisons. Et en particulier, nous allons proposer un programme qui vise à soutenir les startups européennes qui nous semblent les plus prometteuses et pourquoi pas essayer d'avoir chez nous aussi en Europe un futur SpaceX. Peut-être existe-t-il déjà et peut-être a-t-il juste besoin d'un petit coup de pouce et c'est ce que nous allons essayer de faire.
Alors, quels sont les grands projets industriels développés actuellement à l'ESA dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'exploration spatiale, dans le domaine des startups du New Space et dans le domaine de l'océanographie?
Alors, ça fait beaucoup. Je ne vais pas tous pouvoir vous les citer.
Il n'y a pas de souci.
Alors, dans le domaine de l'environnement, je pense que c'est bien de commencer par ça parce que je crois que l'ESA a été leader dans un grand nombre de domaines, mais dans l'environnement, on est clairement leader mondial. C'est-à-dire qu'on a ce programme qui s'appelle Copernicus, qui est un programme en coopération avec l'Union européenne, cofinancé, et qui consiste en une famille de satellites, les Sentinelles, donc qui vont fournir les données spatiales pour étudier, pour surveiller et pour mieux comprendre le fonctionnement de notre système. L'atmosphère, la Terre émergée, les océans, l'évolution du climat. Et puis aussi, nous avons des satellites scientifiques pour mieux comprendre le fonctionnement physique et les interactions entre ces différents composants. Donc, dans l'environnement, je dirais, le grand programme, c'est le programme Copernicus, avec les nouvelles familles de satellites, les Sentinelles qu'on appelle, parce que ce sont vraiment les Sentinelles de la Terre. Et puis, là aussi, je voudrais citer le programme de ce qu'on appelle Futureo, c'est-à-dire observation de la Terre future, qui permet de poser les bases de ce qui sera ensuite des systèmes opérationnels de suivi et de surveillance de l'environnement. Juste pour vous citer un chiffre, on a plus de la moitié des variables climatiques essentielles, vous savez, ces variables qui permettent de mesurer le changement climatique, plus de la moitié de ces variables ne peut être fournie que par des systèmes spatiaux, parce que ça nécessite une vue globale de notre planète qui ne peut être donnée que par les satellites. Donc maintenant, je dirais, s'il y a bien un domaine où l'espace est irremplaçable, unique et absolument crucial, c'est la surveillance de l'environnement. Et pour l'instant, il s'agit de surveiller l'environnement, de comprendre l'évolution du climat, de la planète. Je suis convaincue que dans un terme plutôt court, assez rapidement, on viendra même peut-être à ce que les satellites permettent de réglementer. Par exemple, on peut d'ores et déjà mesurer la déforestation, mais on peut aussi identifier quels sont les pays qui se livrent à des actions contraires au bon fonctionnement de la planète, type déforestation. Des gazages, des gros pétroliers, etc. Et je suis convaincue qu'un jour, on utilisera aussi le spatial pour faire une genre de police de l'environnement. On n'y est pas encore, mais ça viendra. Donc ça, c'est pour l'environnement. Pour l'exploration, c'est aussi une très bonne question parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Je vous disais, j'ai commencé ma carrière sur la science spatiale en faisant en sorte qu'on passe du papier au concret, au métal, et à quelque chose qui ensuite est allé en orbite. Mais la station, en fait, ça fait maintenant 22 ans qu'elle est en orbite. Elle commence à se faire vieille, et on peut penser qu'au-delà de 2030, la station ne sera peut-être plus opérationnelle. Donc, on doit dès maintenant réfléchir à l'après-station spatiale et au futur programme d'exploration. Et clairement, on a toujours ces trois domaines. On a l'orbite basse. Je pense qu'on continuera à avoir des stations en orbite basse, mais peut-être là, ce sera plus des stations privées ou publiques-privées où on pourra acheter des services, mais ce ne sera pas forcément l'ESA qui développera la station. On verra, ce n'est pas encore fait, mais on réfléchit dans ces termes-là. Il y a aussi évidemment la Lune. Vous savez que là, prochainement, on va avoir le premier lancement de la mission Artemis, et qui est la mission de la NASA pour le retour lunaire, mais où contribue l'ESA fortement. Et on contribue avec un véhicule de soutien logistique, mais aussi des, des modules d'habitation, etc. Donc, certainement, on espère bien avoir un astronaute européen sur la Lune d'ici à 2030, et ce sera un grand pas aussi pour nous. Et puis Mars. Alors Mars, malheureusement, on aurait dû avoir cette année le départ de la mission ExoMars vers Mars pour aller forer le sol martien à la recherche de traces de vie, de vie qui aurait pu se faire autrefois sur Mars. Mais à cause de la guerre en Ukraine, on n'a pas pu lancer cette mission puisqu'elle devait être lancée par un lanceur russe. Donc, on est en train de réfléchir à l'avenir de la mission ExoMars, mais quoi qu'il en soit, au-delà de la mission ExoMars, nous participons aussi à ce qu'on appelle le retour d'échantillons martiens avec la NASA. Et là, nous fournissons des éléments de ce retour d'échantillons pour que aussi d'ici à 2030 ou début de la décennie 2030, on ait du retour d'échantillons martiens. Donc, de toute façon, les programmes d'exploration spatiale, c'est vraiment l'orbite basse pour, disons, l'espace habité, les astronautes, mais aussi la Lune, et on aura aussi une station lunaire, une station en orbite pour la Lune, le Gateway, et puis Mars. Pour l'instant, ce sera de la robotique, et un jour, j'espère qu'on le verra quand même malgré tout dans les deux décennies qui viennent, l'homme ou la femme sur Mars.
Très bien.
Alors, c'est l'exploration. Donc, voyez, on est, et là, tout ça, c'est en train d'être décidé. C'est ça qui se passe. Tous ces programmes vont démarrer. Le New Space, alors c'est bien parce que le New Space, c'est ce dont je m'occupe, et on va proposer, je vous l'ai dit, on a une réunion de nos ministres en charge du spatial à la fin de l'année. On va leur proposer un programme qui s'appelle Scale Up. Scale Up comme la croissance, si vous voulez, des startups. C'est-à-dire après l'incubation, on passe à l'accélération et au scaling up, désolé de ce franglais, mais ça veut dire que là, on passe au stade où les startups commence à chercher de l'investissement pour se développer, de l'investissement externe, etc. Et donc, nous, on propose un programme pour aider à ça, un programme qui se décompose en deux grands éléments. Un élément destiné à stimuler l'innovation avec des incubateurs, justement, des programmes d'accélération, la protection des aspects de politique industrielle, du transfert de technologie, etc. Et puis, un élément qui s'appelle Investir. Et là, qui fournit l'accès à des investissements privés, à des fonds d'investissement, mais aussi qui permet d'accéder à des programmes de développement et de validation en orbite, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez, si vous êtes une start-up, vous avez développé une technologie ou un petit système, vous pouvez aller le tester en orbite. Donc, ce programme Scale Up, il va démarrer, si tout va bien, en novembre. Et c'est un petit programme, mais on espère, là encore, identifier à travers de ce petit programme et faire grandir nos jeunes pousses prometteuses, et on en a beaucoup, beaucoup déjà en vue. C'est même extraordinaire le nombre de startups que je rencontre qui ont vraiment des projets fascinants, y compris sur des nouveaux marchés, des choses qu'on n'a jamais encore vues, et je pense que ça sera vraiment passionnant à suivre. Et puis, vous m'avez parlé de l'océanographie. Alors, sur l'océanographie, je reviens au Sentinel, hein, au programme Copernicus, parce qu'en fait, l'océanographie, on a beaucoup de nos programmes Sentinelles qui font de l'océanographie, qui soutiennent l'océanographie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde par exemple le suivi des glaces de mer et aussi la profondeur des glaces de mer, l'épaisseur pardon, des glaces de mer pour voir là aussi l'évolution du climat, la couleur de l'océan qui permet de déterminer aussi sa composition, la température de la surface de l'océan, la salinité, et l'altimétrie, donc les différences de niveau entre les océans. Donc, on a en fait une gamme de données qui permettent vraiment de fournir un grand nombre de services dans l'océanographie. Et puis, avec un système de distribution des données qui s'appelle Mercator Océan, mais aussi des missions scientifiques pour bien comprendre comment fonctionne cette espèce d'écosystème incroyable qu'est l'océan. Et là, on peut citer, vous avez par exemple Gautier, vous avez Cryosat sur les glaces de mer. Enfin, vous avez toute une série de projets et de programmes qui visent aussi à comprendre scientifiquement comment fonctionne l'écosystème océanique.